Bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce troisième cours. Nous allons continuer notre voyage initiatique dans cette nouvelle discipline de l'Evo-Devo. Et vous vous souvenez qu'au cours des deux cours précédents, je vous ai mentionné quelques-uns des piliers, des fondamentaux de cette discipline, notamment le fait que nous partageons une grande partie de nos gènes avec tous les autres animaux. Et cette caractéristique très intéressante, qu'on appelle cette sorte de boîte à outils, cette collection assez restreinte, finalement, de gènes que nous utilisons tous pour mettre sur pied un plan de développement global à partir duquel les choses vont évoluer et se différencier. Une des conséquences principales de ces deux observations, c'est que les modifications de structure des gènes ne peuvent pas, elles seules, expliquer les variations de morphologie que nous observons chez tous les animaux. Par conséquent, il doit y avoir une autre façon d'introduire de la diversité. Et souvenez-vous, nous avons parlé amplement de cet aspect de la régulation des gènes, c'est-à-dire que puisque les gènes sont relativement stables, puisque ce ne sont pas des variations dans les gènes eux-mêmes qui sont responsables de l'intégralité des changements de morphologie, eh bien, cela doit être dans les modifications de la façon dont ces gènes fonctionnent, donc des modifications dans la régulation de l'expression de ces gènes. À partir de là, donc, cette réflexion qui avait été initiée par Marie-Claire King et Alan Wilson, une fois de plus, je vous le rappelle, simplement en comparant quelques molécules, les molécules disponibles à l'époque, entre des chimpanzés et des humains, et remarquant que ces molécules étaient beaucoup trop proches les unes des autres pour que les différences observées puissent rendre compte des différences finales entre les chimpanzés et les hommes. Donc, cette idée que la différence majeure entre les chimpanzés et l'Homo sapiens, du point de vue de la mise en œuvre du programme génétique, devait reposer sur des différences dans la façon dont les gènes fonctionnent et non pas dans les gènes eux-mêmes. Voilà. Alors, je vous avais mentionné quatre grandes classes dans lesquelles on peut rentrer, en fait, ces types de modifications génétiques. Ce sont des catégories qui ne sont pas... Ce n'est pas exhaustif, en fait. On peut en trouver d'autres. C'est une classification, une catégorisation qui a été proposée par Wallace Arthur en 2004. Des changements dans le temps de la régulation génétique, des changements dans le lieu de l'expression des gènes, des changements dans la quantité et des changements dans le type de régulation. Et je vous avais donné un exemple pour ces trois premières catégories sur lesquelles je vais revenir très brièvement pour qu'on puisse reprendre un peu la dynamique de ce que je souhaitais vous dire. Et puis aujourd'hui, je vais passer pas mal de temps à vous parler de ce quatrième type de changement qui concerne donc les changements hétérotypiques. Alors, brièvement, en ce qui concerne les changements dans le temps, c'est-à-dire des changements qui vont faire en sorte qu'un gène qui normalement est exprimé au temps T va se mettre en route au temps T-1 ou au temps T+1. Dans les bonnes cellules, au bon endroit, avec la bonne spécificité, mais simplement trop tôt ou trop tard. Et comme exemple, je vous avais donné cette comparaison extrêmement intéressante entre, sur votre gauche, un squelette d'oiseau, donc avec 14 vertèbres cervicales, sur votre droite, un squelette mammifère avec 7 vertèbres cervicales. Et je vous avais décrit sommairement la façon dont tous les vertébrés, plus beaucoup d'invertébrés, se développent, c'est-à-dire en partant du haut et en allant vers le bas. Souvenez-vous, on commence à former notre tête plus la région cervicale, et l'on rajoute progressivement, toutes les heures, toutes les deux heures à peu près, selon les vertébrés, on va rajouter un étage du haut vers le bas, contrairement à une construction d'un immeuble, car on irait du bas vers le haut, bien entendu. Vous voyez que la transition entre cette partie cervicale et cette partie thoracique est positionnée à des endroits différents, et donc il existe un gène particulier qui, au moment où l'on va passer de la région cervicale à la région thoracique, va se mettre en marche et va donner comme information faire des côtes, autrement dit rentrer dans la région thoracique. Si ce gène est activé un peu trop tôt, on va réduire la longueur de la région cervicale. Si ce gène est activé un peu trop tard, comme il est vraisemblablement le cas chez les poulets, ici, chez les oiseaux, eh bien, naturellement, plus de segments de type cervicaux vont être produits avant que cette transition n'arrive. Donc, dans ce cas particulier, un changement dans le temps d'activation d'un gène conduit à un changement dans l'espace. C'est en fait quelque chose d'extrêmement intéressant, on aura peut-être l'occasion de rediscuter, c'est une sorte de machine à transformer le temps en espace. Donc un simple délai ou une activation trop précoce de l'activation d'un gène va immédiatement avoir des répercussions dans l'espace. Deuxième exemple que je vous avais montré, ça concernait ces changements de régulation de type hétérotopique, et, c'est-à-dire des changements dans le lieu. Cette fois, les temps sont respectés, les quantités sont respectées, ce qui n'est pas respecté, ce qui va varier, c'est le lieu où ce gène va être exprimé. Et je vous avais donné cet exemple magnifique, ce travail du laboratoire de David Kingsley à Stanford, des années et des années de travail, qui a montré que chez l'épinoche à trois épines, cette épinoche a remplacé ses nageoires pelviennes, autrement dit l'équivalent de nos jambes, par des épines. C'est une adaptation à son milieu, donc elle fait des épines dans cette partie, et que le gène responsable pour la fabrication de ces épines est un gène qui s'appelle PITX1. Et vous voyez ici ces deux bandelettes brunes qui correspondent en fait, c'est une façon que l'on a pour voir où le gène fonctionne. Et vous voyez que ce gène PITX1 fonctionne exactement dans ce que l'on appelle les Anlage, donc les structures embryonnaires qui plus tard vont donner les nageoires pelviennes. Donc on a une correspondance parfaite entre l'activité de ce gène qui fonctionne, qui fabrique de l'ARN, qui fabrique des protéines, et l'émergence de ces épines. Lorsque l'on passe à cette variété d'épinoche très proche qui vit en eau douce, on voit que cette épinoche a perdu ses épines. Si l'on regarde l'activation du gène PITX1 dans ces épinoches, on remarque que ce gène n'est plus exprimé, donc son expression a disparu. Il y a un changement de lieu. Et en fait, lorsque ces auteurs ont regardé l'organisation de ce gène, ici PITX1, souvenez-vous, quatre enhancers ici que j'ai indiqués. On a beaucoup parlé de la structure de ces enhancers, de ces séquences contrôle, ces tours de contrôle qui activent, qui font on y va, on n'y va pas. Eh bien, ces auteurs ont remarqué qu'un de ces enhancers, particulièrement celui qui est actif dans les nageoires, a été modifié d'une façon telle que ce gène ne peut plus être exprimé dans les nageoires. L'information expression de ce gène dans les nageoires, cette information entre cette séquence régulatrice et ce gène ne peut plus s'établir parce que la séquence régulatrice a été modifiée. Le résultat de cette modification, et je reviendrai dessus à la fin du cours, est que ce poisson, finalement, est relativement heureux, dans le fond, puisqu'il n'a qu'un seul problème, c'est de ne pas exprimer PITX1 dans la nageoire. Donc la seule chose qui va lui manquer, ce sont ses épines. Il fera avec. Alors que si cette mutation était arrivé dans le gène lui-même, plutôt que d'arriver dans cet élément de régulation, ce poisson souffrirait de problèmes dans ses nageoires pelviennes, mais également dans le thymus, dans les organes sensoriels, dans les fosses olfactives, le poisson serait mort. Et donc là, on commence à voir l'intérêt évolutif de cette modularité des éléments de régulation. Troisième exemple que je vous avais montré concerne des changements de type hétérométrique. Changement extrêmement intéressant, où là, le lieu est respecté, le temps est respecté, tout est respecté. La seule chose qui varie, ce sont les niveaux. Un gène donné va être exprimé un peu trop ou un peu trop peu. Alors là, il faut que je précise, pour les gens qui n'ont pas de formation de biologie moléculaire solide, quand je parle d'un gène exprimé, de quantité trop ou trop peu, je parle bien sûr du produit final. Un gène, comme vous le savez, c'est de l'ADN. Cet ADN va être lu en une molécule simple brin, qu'on appelle un ARN. Donc cet ADN va fabriquer une molécule intermédiaire, qui sera un ARN, et cet ARN va être lu par des machines moléculaires qui vont fabriquer une protéine. Donc ce qui compte, à la fin, bien entendu, c'est la quantité de protéines. Vous pouvez gonfler la quantité d'ARN si, par un autre mécanisme, la quantité de protéines est la même, il n'y aura pas d'effet. Donc là, je parle, évidemment, d'une augmentation de la quantité de protéines qui résulte d'une régulation du gène qui soit est trop abondante, soit est trop peu abondante. D'accord ? Et je vous avais donné cet exemple, qui est un exemple, c'est à la fin du cours, qui est un exemple évidemment historique qui concerne ces pinsons du genre Geospiza, qui sont les pinsons de ces îles Galapagos. Et je vous avais expliqué un concept extrêmement important en écologie, en évolution, c'est ce concept de morphospace, pour lequel il n'y a pas vraiment de traduction satisfaisante en français, en fait, qui vous donne, en fait, un espace dans lequel différents morphes, donc différentes formes d'une structure, peuvent changer. Donc cet espace, si vous êtes localisé ici, vous allez avoir un bec très court et très robuste. Si vous êtes localisé ici, vous allez avoir un bec très long et très fin, etc. D'accord ? Donc c'est, si vous voulez, la collection de toutes les formes que peut prendre un organe, une structure particulière, en réponse à des contraintes adaptatives, etc. C'est ce qu'on appelle un morphospace. D'accord ? Eh bien, ce morphospace, je vous avais dit qu'il était déterminé, en fait, principalement par deux protéines, une qui s'appelle la calmoduline, pour des raisons que j'ignore, en fait, qui n'ont pas encore été résolues, puisque c'est une protéine qui, au premier abord, n'est pas quelque chose qu'on aurait choisi pour faire ce travail. Mais... Et puis la BMP4, qui, alors, elle, est une protéine qui est connue dans la morphogenèse, c'est une bone morphogenetic protein 4, qui est un membre de cette très grande famille des facteurs TGF-bêta, qui sont donc des facteurs qui sont des ligands, donc qui communiquent entre cellules en se liant à des récepteurs et qui informent les cellules sur ce qu'elles doivent devenir. Donc, des variations dans les quantités respectives de ces deux protéines font déplacer cet objet dans le morphospace. D'accord ? Vous voyez ici que si vous êtes en très basse quantité de BMP4 et en très haute quantité de calmoduline, vous allez avoir un bec qui sera relativement fin et allongé. Si vous êtes en très haute quantité de BMP4 et en très basse quantité de calmoduline, vous allez avoir un bec très robuste, très fort et très court. Donc, dans ce cas particulier, rien ne change. Les seuls paramètres qui varient sont des paramètres quantitatifs. On a plus ou moins de ces protéines. Et ce qui est important, c'est le ratio. C'est le rapport entre ces deux quantités qui va déterminer la forme du bec. C'est là où je m'étais arrêté la semaine passée Et je m'étais arrêté sur un point qui est probablement le point le plus intéressant de cette étude, qui est un point compliqué. C'est pour cette raison que je ne voulais pas rentrer dans ce point-là à la fin du cours la semaine passée, qui est que vous avez peut-être remarqué, si vous... Bon, c'est une image compliquée, il y a beaucoup d'informations dans cette image, mais vous remarquez, dans ces distributions, vous avez bas haut, bas modéré haut, modéré bas, haut bas. Mais vous n'avez jamais haut haut. Donc il n'y a pas de cas de figure où vous avez des concentrations maximum de calmodulines et des concentrations maximum de BMP4. Et c'est quelque chose qui, semble-t-il, est extrêmement intéressant, c'est qu'il semble que ce soit un système exclusif. C'est ce qu'on appelle un trade-off, c'est-à-dire qu'il y a des zones dans ce morphospace qui ne sont pas accessibles. Et ça, c'est un concept qui, évidemment, nous ramène au gradualisme darwinien classique, c'est-à-dire qu'il y a un certain type de variation dans ce morphospace qui ne sont pas accessibles, probablement non pas parce qu'elles ne sont pas sélectionnées. On pourrait très bien imaginer qu'un pinson qui aurait vraiment la forme maximum du bec aurait peut-être un avantage adaptatif. Mais simplement parce que ces formes probablement ne sont pas produites. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas sélectionnées, elles ne sont pas produites. Et pourquoi ne seraient-elles pas produites? Parce que peut-être il y aurait des contraintes internes au système qui fait que si vous devez produire un bec qui est très robuste, très haut et en plus très long, vous allez devoir changer beaucoup de choses dans ce pinson qui font que peut-être ce ne sera même plus un pinson. Donc c'est une possibilité qui n'est pas explorée dans cet espace des possibles, dans ce morphospace. Et cela nous amène bien sûr à ce concept extrêmement important en biologie de l'évolution et qui est devenu de plus en plus important en biologie du développement, qui est cette idée des contraintes internes, c'est-à-dire de cette idée que finalement, on ne peut pas tout essayer. Ce n'est pas que tout n'est pas sélectionné, mais on ne peut pas tout offrir à la sélection naturelle. Il y a un premier filtre, qui est le filtre des possibilités de la construction. Voilà. Alors, ce que j'aimerais discuter aujourd'hui, c'est principalement cette quatrième catégorie qui est extrêmement intéressante et que peut-être une catégorie la plus large, qui sont ces changements de type hétérotypique, c'est-à-dire des changements qui vont impliquer un système différent de régulation. Ce n'est pas qu'on va changer les quantités, ce n'est pas qu'on va changer le lieu ou qu'on va changer le temps, c'est qu'on va changer la logique de la régulation. On va faire différemment. Et j'aimerais vous parler de deux exemples que j'ai choisis parce que ces exemples vont nous amener progressivement à discuter un peu plus en profondeur ce système des gènes architectes, des gènes homéotiques, sur lequel je passerai un peu plus de temps la semaine prochaine. Ce sont deux exemples qui impliquent ce petit animal-là que la plupart d'entre vous doivent bien connaître, en tout cas que vous avez tous dû voir une fois ou l'autre dans votre cuisine sur une banane un peu trop âgée. C'est donc cette fameuse Drosophila melanogaster, cet objet qui, depuis Thomas Hunt Morgan, a été un des objets préféré des généticiens, et cet objet biologique qui a été à l'origine, je dirais, de cette révolution de la génétique du développement. Drosophila melanogaster, puisque vous voyez ici des pigments, de la mélanine sur le gastrum, hein, c'est là d'où vient le mot melanogaster. Alors, pour bien comprendre les deux exemples que je vais vous donner, qui sont pas très simples, je dois vous prévenir, mais je vais essayer de les rendre le plus simple possible. J'ai besoin tout de même de passer quelques minutes sur certaines caractéristiques de la drosophile, des insectes, des diptères. Et j'aimerais avant tout vous rappeler que Drosophila melanogaster, c'est évidemment un insecte qui est segmenté. Alors la segmentation de Drosophila, eh bien, on la voit très bien sur l'abdomen ici. Vous voyez ces segments, c'est un peu pareil qu'une abeille ou une guêpe. Mais il y a également le même type de segment dans la partie la plus antérieure, qu'on appelle des segments gnathaux, qui sont dans la tête. Et puis il y a des segments dans la partie intermédiaire ici, qui sont les segments thoraciques. Il y a trois segments thoraciques, que l'on appellera T1 pour le segment le plus antérieur, T2 et T3, thoracique 1, thoracique 2, thoracique 3, puis ensuite on aura les abdominaux A1, A2, A3, etc. etc. D'accord ? Ces segments sont peu visibles parce qu'ils sont couverts d'une pièce d'exosquelette qu'on voit là, qui protège en fait, qui est ce qu'on appelle le notum. Et je le mentionne parce que je reviendrai dessus pour discuter du deuxième exemple que je vous présenterai tout à l'heure, le notum. D'accord. Donc la mouche a un corps segmenté. Le thorax est fait de trois segments, T1, T2, T3. Alors ces segments thoraciques sont les segments qui portent les appendices chez les diptères. T1, T2 et T3 portent chacun une paire de pattes sur l'aspect ventral. Comme il y a trois segments thoraciques, il y a trois paires de pattes, il y a donc six pattes, ce sont des hexapodes, c'est une synapomorphie des insectes. Chaque bestiole que vous trouvez qui a six pattes, c'est un insecte. Et tous les insectes ont six pattes. C'est vraiment ce qui caractérise les insectes. T2, dans la partie dorsale, sur le dos, porte une paire d'ailes. Vous voyez ici. T3, sur la partie dorsale, porte une sorte d'aile un peu rabougrie qui a une structure d'aile, finalement, mais qui ressemble à pas grand-chose, qui est une structure un peu avortée, que l'on appelle des haltères ou des balanciers, et qui sont les structures équivalentes aux ailes, mais sur T3, donc sur la partie dorsale de T3. Ces balanciers, finalement, et là on revient à Pangloss, on ne sait pas trop à quoi ils servent. Le nom balancier suggère qu'ils pourraient servir à équilibrer le vol, un peu comme des ballasts, n'est-ce pas, pour, bon. Mais tout cela, c'est une vue anthropomorphe. On n'a jamais vraiment autant on peut assigner aux ailes une fonction précise, qui est celle de voler, autant il est difficile, en tout cas dans la littérature, de trouver une explication vraiment convaincante sur la fonction des balanciers. Donc, n'en parlons plus. Ce qui est très intéressant, c'est que T1 n'a pas d'appendice dorsal. Donc T1, dans la partie ventrale, a une paire de pattes, mais dans la partie dorsale, n'a pas d'appendice soit d'aile, soit de balancier. Alors le premier exemple que j'aimerais discuter, c'est pourquoi les insectes n'ont-ils que six pattes ? Qu'est-ce qui fait que l'intégralité des insectes ne possède que trois paires de pattes. Et la réponse à cette question est que dans l'abdomen, alors je devrais dire dans la région de l'embryon de drosophile qui se développe, qui plus tard donnera l'abdomen, c'est pas chez l'adulte évidemment, il y a une protéine qui est exprimée, qui est fabriquée par un gène qui s'appelle ultrabithorax, un mot compliqué, appelons-le UBX. Ce gène démarre de la frontière T2-T3 et est exprimé jusque dans l'abdomen. Donc il vous faut vous imaginer une larve de drosophile et dès que vous passez T2, vous allez avoir ce gène exprimé jusqu'à la fin. Donc T3 plus les segments abdominaux. Et l'idée, c'est que ce gène particulier, UBX, empêche l'émergence de pattes. Alors, laissez-moi vous présenter une série de travaux qui ont été faits, je dirais, entre les années 2000 et 2006-2007, par beaucoup de laboratoires, en fait, notamment celui de Steve Cohen, mais en particulier le laboratoire de Sean Carroll à Madison, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Et ce que ces auteurs, collectivement, ont observé, c'est que les pattes, il faut évidemment toute une série de gènes qui s'activent pour fabriquer une paire de pattes. Parmi ces gènes, il y a un gène qui est absolument nécessaire et important, qui s'appelle Distalless, DLL. Si vous voulez avoir une paire de pattes, il faut que ce gène s'active au bon moment, dans la bonne structure, c'est-à-dire la structure embryonnaire d'où les pattes vont émerger. Or, ce gène DLX, Distalless, va être réprimé par ce gène UBX. Donc, partout où cette protéine UBX va se trouver, ce gène Distalless ne va pas pouvoir fonctionner. Cette protéine va l'empêcher de réaliser son destin de pâte, en quelque sorte. Alors, ces auteurs ont décidé de regarder la séquence de cette protéine UBX. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est de prendre des spécimens parmi tous les grands groupes d'insectes pour essayer de comprendre comment ce gène, cette protéine UBX, pouvait empêcher ce gène Distalless de fonctionner. Et vous voyez en haut ici ces des séquences. Je vais revenir une minute sur ce que cela veut dire, mais vous voyez que ce sont des séquences qui dérivent du même gène UBX, qui vient soit de la mouche, soit de d'anopheles, donc les moustiques, soit de papillons, soit même de tribolium, donc des coléoptères. Donc des espèces extrêmement différentes, mais qui toutes ont un point commun, qui sont des insectes qui ont trois paires de pattes. D'accord. Et en séquençant ces protéines, ces auteurs ont remarqué une chose extrêmement intéressante. Alors, ce que vous voyez là, en fait, c'est une suite de lettres. Alors, faites attention, ça n'a plus rien à voir avec de l'ADN. C'est un code. Chacune de ces lettres, en fait, représente un acide aminé, donc un résidu, ou c'est qu'une protéine, c'est une suite d'acides aminés. Et vous voyez, par exemple, le W ici, c'est un tryptophane, le F, c'est un phénylalanine, le Q, c'est un glutamine, sauf erreur, le N, arginine, asparagine, argine, etc. Donc, en fait, c'est simplement, ça vous montre la séquence de la protéine. Et vous voyez que toutes ces différentes espèces, aussi éloignées qu'elles soient l'une de l'autre, ont des séquences qui sont pratiquement identiques. Alors, ça, c'est ce qu'on discutait précédemment. Ces gènes sont extrêmement bien conservés, donc ils codent des protéines qui sont extrêmement bien conservées. Cette partie-là de la protéine est une partie que l'on appelle l'homéodomaine. Alors, pourquoi ? Parce que c'est une partie qui, dans l'espace, faut vous imaginer cette protéine qui est une suite d'acides aminés, dans l'espace, cette partie de protéine, qu'on va appeler un peptide, donc une partie de la protéine, va adopter une structure qui est très particulière, que vous voyez là, qui est une structure en trois hélices alpha. Donc, vous avez cette protéine qui va faire une hélice comme ça, une hélice comme ça, une hélice comme ça, de type alpha. Et puis, donc là, vous voyez l'ADN derrière. Ici, vous voyez cette partie de la protéine avec ces trois hélices. Et vous voyez que la troisième hélice, ici, va rentrer. Là, on a maintenant une vue qui est une vue latérale. Donc, c'est la même que ça, mais de façon latérale. Donc, ce tube-là, maintenant, vous le voyez comme ça. Ce tube va se positionner dans l'ADN. Et c'est cette troisième hélice qui va reconnaître une séquence d'ADN particulière qui va lier. Et le reste de la protéine va donner les ordres. Activer, ne pas activer, réprimer. D'accord ? Donc, vous avez une séquence, c'est l'enseur quelque part. Cette protéine va arriver, va reconnaître cette séquence sur l'ADN et grâce à cette troisième hélice va coller dans cette séquence et la protéine va pouvoir faire son travail. C'est ce qu'on appelle un facteur de transcription, donc une protéine qui va réguler l'expression d'un autre gène. Ici, vous avez en fait une vue qui est beaucoup plus précise, qui est une vue de structure qui est déduite d'une résonance magnétique nucléaire avec cette troisième hélice là, vous voyez, qui rentre dans le sillon, à l'intérieur de l'ADN ici, dans le sillon majeur de l'ADN, et qui va reconnaître ces séquences-là. Donc, la protéine UBX lie l'ADN par son homéodomaine, qui est un morceau de 60 résidus. Le homéodomaine est replié en trois hélices alpha. Les hélices 2 et 3 font un hélice tour hélice, vous voyez qu'elles sont orthogonales l'une à l'autre, comme ça. Puis ce motif reconnaît l'ADN dans le sillon majeur et établit des contacts. Deuxième point extrêmement important dérivé de cette séquence, c'est que vous voyez que directement derrière ce peptide, donc sur la protéine, un peu plus loin, on trouve une séquence qui est une sorte de hoquet, une répétition de résidus alanine. Donc vous avez cette protéine qui soudainement se met à bégayer et vous avez alanine, 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 donc une suite, un stretch du même acide aminé. Et ça, peut-être certains d'entre vous l'auront déjà entendu, c'est une structure qui est extrêmement intéressante. C'est une des structures qui est responsable de ce que l'on appelle les maladies d'amplification de triplet chez les humains, par exemple la maladie de Huntington, plusieurs déficiences mentales, où quand on augmente le nombre d'alanines, on va vers une pathologie. Et parfois, on peut même prévoir dans une famille, parce qu'il y a des formes de transition, où le nombre d'alanines augmente progressivement. Pourquoi, pour les spécialistes d'entre vous, lorsque l'on fait une recombinaison, eh bien, lorsque vous avez des séquences distinctes, les mêmes, mais des séquences hétérogènes, elles vont s'apparier parfaitement. Lorsque vous avez des séquences qui bégayent, parfois vous allez vous apparier comme ça ou vous appariez comme ça, puisque tout est pareil. Si vous vous appariez comme ça, que vous faites un croisement, vous allez amplifier cette séquence. Lorsque vous en avez trop, vous développez une pathologie. Et dans ce cas particulier, il semble que cette région de polyalanine ait une activité de répression. C'était montré pour d'autres gènes, comme par exemple le gène Engrild, qui a été beaucoup discuté au sein de ce cours par notre administrateur Alain Prochian. Peut-être certains d'entre vous ont suivi son cours. C'est un gène sur lequel il a fait beaucoup de travail. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans tous ces cas, cette protéine, probablement, se lie sur une séquence cible, peut-être un enhancer du gène distalless, et cette séquence de polyalanine va faire en sorte que ce gène va être bloqué. Ce gène va ne jamais s'activer. Comme ce gène distalless ne sera pas activé, il n'y aura pas de patte. Comme cette protéine est exprimé dans l'abdomen, il n'y aura pas de patte dans l'abdomen. Alors, ces auteurs ont continué évidemment ce travail en se posant la question, à quoi donc ressemble cette protéine lorsque l'on va chez des arthropodes qui ne sont pas des insectes, donc qui ont des pattes sur l'abdomen. Et donc, ils ont analysé des collemboles, des crevettes, bien sûr, des crustacés, des millepattes, des centipèdes, des millipèdes, des araignées, des onychophores, toutes sortes de bestioles qui sont des arthropodes, mais qui ne sont pas des insectes. Et quand vous regardez la séquence de ce gène UBX chez ces animaux, vous voyez que la séquence qui lie l'ADN est parfaite, elle est toujours là. Alors pourquoi elle est parfaite ? Alors maintenant, vous avez compris, parce que ce gène UBX, il fait autre chose ailleurs chez ces arthropodes. Donc, on ne peut pas casser la séquence. C'est comme le gène PITX que je vous montrais tout à l'heure. On ne peut pas détruire ce gène au motif de faire des pâtes abdominales, parce que ce sera la catastrophe. Donc ce gène lit toujours l'ADN parfaitement, avec la même spécificité, mais par contre, vous voyez qu'ici, cette chaîne de polyalanine a disparu. Donc ces auteurs concluent, ou en tout cas émettent une hypothèse forte, que ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que ce gène UBX produit une protéine qui va reconnaître la région en amont de ce gène distalless, qui va se lier, comme dans le cas des insectes, mais qui sera incapable de prévenir, d'empêcher l'activité de DLX. Et par conséquent, des pattes vont pousser sur l'abdomen. Alors c'est évidemment extrêmement intéressant quand on regarde ce... On peut évidemment remonter sur un arbre phylogénétique et mapper, en fait, le moment auquel ces séquences de polyalanine sont apparues. Et bon, selon les auteurs, ça change un peu, mais il semble qu'il y a à peu près 400 millions d'années, c'est-à-dire, en gros, une centaine de millions d'années après cette explosion du Cambrien qui a donné toutes les formes que l'on connaît aujourd'hui, hein, 400 millions d'années, que ces deux schémas, si vous voulez, se sont séparés. Un schéma dans lequel les pattes sont réprimées dans l'abdomen, et puis un schéma dans lequel les pattes peuvent librement pousser sur chacun des segments abdominaux. Le deuxième exemple que j'aimerais vous présenter concerne non pas les appendices ventraux, mais les appendices dorsaux. C'est un exemple qui est encore plus spectaculaire, qui est celui de la présence ou de l'absence des ailes. Donc, je vous disais auparavant que le segment T2, donc celui-ci, qui est caché sous le notum ici, le segment T2 porte une paire d'ailes. Le segment T3 porte des altères, des ailes qui sont atrophiées, et le segment T1 n'a pas d'appendice dorsal. La raison pour laquelle le segment T3 ne porte pas une paire d'ailes aussi belle que celle que l'on trouve sur T2 est encore une fois due à l'expression de ce gène UBX, qui, souvenez-vous, je vous le disais, démarre à la frontière entre T2 et T3. Donc la présence de cette protéine UBX empêche la structure qui est sur T3 de faire une aile et la transforme, en quelque sorte, dans une structure un peu avortée qui est ces balanciers. Donc une fois de plus, c'est cette limite ici, entre T2 et T3, qui fait qu'à l'intérieur de ce segment, on ne produit pas une aile complètement développée. Alors que se passe-t-il lorsque l'on va abroger la fonction de cette protéine UBX dans le segment T3? C'est une expérience qui est compliquée à faire, qui a été faite de façon magistrale par quelqu'un qui s'appelle Ed Lewis. C'est une expérience qui a été publiée il y a exactement 40 ans, en 1978, qui lui a d'ailleurs valu le prix Nobel en 1995. Vous voyez que si on enlève la fonction, un peu plus compliqué que ça, mais si on enlève la fonction du BX dans le segment T3, le segment T3 maintenant produit une paire d'ailes qui, si vous regardez en détail, est une paire d'ailes pratiquement identique à la paire d'ailes que l'on trouve en T2. Autrement dit, cet animal maintenant a transformé son segment T3 en segment T2. Donc on n'a plus une mouche qui a T1, T2, T3, on a une mouche qui a T1, T2, T2. Donc ce qui fait la différence entre T2 et T3, c'est l'expression d'un de ces gènes architectes, d'un de ces gènes OX, ultrabithorax, Quand ce gène rentre dans T3, eh bien, on a T1, T2, T3. Quand ce gène est exclu de T3, on a T1, T2, T2. C'est un système relativement logique, en fin de compte. Donc, des mutations dans la régulation de ce gène UBX transforment T3 en T2. Et donc, les balanciers maintenant disparaissent, sont remplacés par ces magnifiques paires d'ailes. Ce phénomène de transformation d'un segment dans un autre, c'est un phénomène que l'on appelle l'homéose. Et cette homéose vient de William Bateson, donc l'utilisation de ce mot vient de William Bateson. Et vous voyez ici, c'est un article qui est extrêmement intéressant. C'est un article qui a été écrit par Ed Lewis en 1994, donc une année avant l'obtention de son prix Nobel. Et il fêtait donc, dans cet article, les 100 ans de l'homéose. Aujourd'hui, on fête les 40 ans de l'article d'Ed Lewis qui lui a valu le prix Nobel. En fait. Et Ed Lewis dit la chose suivante, une chose très intéressante. William Bateson a donc a inventé ce mot d'homéose. Alors pourquoi ? Parce que homéo en grec, qui ressemble à, qui est comme. Donc homéotique, homéosis, c'est-à-dire c'est la transformation de quelque chose dans quelque chose qui ressemble à. Donc là, vous transformez une paire de haltères, un segment T3 en T2, ça ressemble à T2. Donc c'est une transformation homéotique, d'où l'appellation de ces gènes homéotiques, qui ensuite a été réduite à OX. Donc quand vous entendez un gène homéotique, c'est en fait un gène OX. Voilà. Mais voyez ici ce qu'il écrit, qu'un siècle plus tôt, en fait, Goethe avait déjà décrit ce phénomène dans son livre La métamorphose des plantes. On trouve toujours tout dans le passé et dans l'histoire. En fait, on passe son temps à réinventer et à redécrire un peu mieux, mais à redécrire des choses qui ont été décrites. Le point extrêmement intéressant dans cet article de Ed Lewis, c'est ce que vous voyez sur la droite. C'est un paragraphe qui vient un peu plus tard dans la publication. Et il dit, dans un passage prophétique, donc il commente toujours l'écrit de Bateson, il dit dans un passage prophétique, Bateson écrit, aussi longtemps que, etc., mais aussi longtemps que l'attention des naturalistes sera limitée à l'étude des formes normales, donc simplement à l'observation des formes normales, on est ici en 1904, aussi longtemps que l'attention des naturalistes sera limitée à l'étude des formes normales, dans ce domaine de la biologie, qui est probablement le plus important d'une façon théorique et même d'une importance pratique, il n'y aura pas de progrès. Donc c'est un plaidoyer pour la génétique, c'est un plaidoyer pour l'introduction de modifications. Ce qu'il dit là, c'est que l'observation d'une situation normale ne peut pas renseigner sur ce qui produit cette situation. Et ce qu'il y a de très intéressant, donc l'importance de la forme mutée, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que le même Ed Lewis, dans d'autres écrits, a argumenté que, d'un autre côté, l'abrogation de la fonction d'un gène ne peut pas, d'une façon épistémologique, renseigner sur la fonction du gène, puisqu'on l'enlève. Et ça, c'est une réflexion qui a été amené à mes yeux, en fait, par les écrits de Charles Galperin, que je vois dans la salle, ici. C'est un problème épistémologique fondamental, à savoir que l'observation d'un organisme ne peut guère renseigner sur les mécanismes qu'il produise, mais la façon prioritaire avec laquelle ces mécanismes ont été compris, c'est-à-dire de les perturber, en principe, ne devrait pas pouvoir nous renseigner mieux puisqu'on perturbe ces mécanismes. Donc on tourne toujours autour du problème, ce qui est en fait la caractéristique fondamentale de la génétique, finalement. De tourner autour des problèmes, d'essayer d'envoyer quelque chose pour que ces systèmes nous répondent, nous donnent des réponses de ce qui se passe à l'intérieur. Quand on regarde cette mouche à quatre à quatre ailes, en particulier avec ses ailes identiques, il est évident qu'on pense tout de suite à d'autres insectes qui ont des structures totalement similaires, cette fois-ci dans leur forme normale. En particulier, je pense aux libellules. Vous voyez que les libellules ont des ailes sur T2, des ailes sur T3, et que ces ailes, vraiment, sont extrêmement similaires les unes aux autres. Les ailes sur le deuxième segment thoracique sont pratiquement identiques aux ailes sur le troisième segment thoracique. Donc, on peut là se poser la question de savoir si effectivement, je dois vous dire que je n'ai pas trouvé la réponse dans la littérature, donc je ne connais pas la réponse, mais si effectivement, chez ces animaux, on n'a pas simplement une toute petite différence dans l'expression du BX qui fait que finalement, ces libellules ont T1, T2, T2. Alors, il est clair que les études faites chez drosophiles suggère que cette explication est la bonne. Mais ce sont des études faites sur des mutants de drosophiles qui, donc, en principe, sur une pensée épistémologique, ne devraient pas pouvoir nous renseigner sur une structure normale d'une libellule. Donc c'est quelque chose qui reste à analyser. Maintenant, bien entendu, on trouve toutes les formes intermédiaires. On trouve aussi beaucoup d'animaux qui ont des ailes sur T2, qui ont des ailes sur T3 ou qui ont des appendices dorsaux plus élaborés que des balanciers, mais qui ne sont pas identiques. Évidemment, là, on rentre dans le domaine des papillons, bien entendu, où vous avez des ailes sur T1 qui, généralement, sont relativement différentes des ailes qui sont sur T2. C'est une caractéristique des papillons. Et puis alors, je vous ai mis un cas extrême, ici, tout en bas, qui est un cas tout à fait extraordinaire, qui sont les bêtes à bon Dieu, les coccinelles, où vous avez sur T2, la paire d'ailes a été transformée. Ce n'est plus une paire d'ailes, ce sont des élytres. Donc c'est une structure solide qui va protéger la paire d'ailes qui se trouve en T3. Donc la bête abondieuse dit mais il faut qu'elle protège ses ailes. C'est une bête qui, évidemment, est soumise à beaucoup de prédation. Elle est visible, elle est sur des feuilles, etc. Donc, quel moyen pour me protéger? Donc, on sélectionne un système qui est efficace, de couvrir le tout avec une structure solide. Mais cette structure, elle sort d'où? On va la faire sortir. Alors, elle sort de T2, et puis on recule les ailes sur T3. Et donc, la coccinelle va d'abord déployer ses élytres pour laisser la place aux ailes de fonctionner. C'est tout à fait extraordinaire, ce qu'on voit là. Donc, cela signifie, en fait, qu'il y a des variations possibles. Alors, est-ce que ces variations sont dues, par exemple, à des quantités? Est-ce que ce sont des variations hétérométriques? On aurait un peu plus du BX dans T3 que dans T2, dans T2 que dans T3. Est-ce que ce sont des variations hétérotopiques, c'est-à-dire les cellules à l'intérieur de T3 ou à l'intérieur de T2, il n'y a peut-être pas le même nombre de cellules qui expriment UBX, ou peut-être qu'elles sont arrangées de façon un peu différente, et on obtient des ailes qui sont différentes. C'est une sorte de jeu, de petit jeu logique. Mais il n'en reste pas moins que sur T1, on ne trouve rien. Il n'y a pas de paire d'ailes, il n'y a pas actuellement, à ma connaissance, d'insectes vivants qui auraient une paire d'ailes, vraiment des ailes, positionnées sur T1. Pourquoi? Elles voleraient tout aussi bien avec des ailes sur T1. Alors on pourrait argumenter que peut-être les ailes sur T1 seraient trop antérieures, donc il y aurait peut-être trop de poids sur l'arrière. C'est pas bon, mais on pourrait très bien faire avec, j'en suis persuadé. Il y a toutefois une catégorie d'insectes qui ont des appendices dorsaux à la position de T1. Et c'est une famille d'insectes absolument extraordinaire qui sont les membracidés. C'est ce qu'on appelle en anglais des tree hoppers. Donc c'est des animaux qui sont sur les arbres et qui passent qui saute d'un arbre. Et vous voyez ici une collection de ces membres acidés qui ont alors vraiment une variété de formes absolument magnifique. C'est une planche qui m'a été envoyée par Nicolas Gompel, qui travaille maintenant en Allemagne, et avec, qui est à l'origine de l'étude que je vais vous présenter maintenant. Vous voyez que ces animaux, alors ils sont compliqués à interpréter, mais regardez ce membre acidé ici en haut à gauche, vous avez une vue dorsale, donc vue de dessus, et une vue latérale. Donc ce que vous voyez là sortir, c'est en fait ces deux morceaux de chitine. C'est ce qu'on appelle un casque. Donc les membres acidés ont un casque, un helmet en anglais. C'est une structure qui, pendant des années, a été plutôt interprétée comme une extrusion du notum. Alors, souvenez-vous, je vous parlais de ce morceau d'exosquelette qui recouvre, qui protège le thorax chez les insectes. Et l'on pensait généralement que ce casque était en fait une extrusion de ce squelette. De cet exosquelette qui prenait ces formes tout à fait invraisemblables. Et en 2011, alors je vous montre ici une. Voilà, là on voit très bien ce que je veux dire. Vous voyez que dessous ce casque qui sort de T1, ici, donc il faut vous imaginer cette grande pièce ici, il ne s'agit pas du corps du membre acidé, hein, c'est un casque qui part vers l'arrière comme ça. Et vous voyez, dessous sortent cette magnifique paire d'ailes qui est en T2, et cette paire d'ailes, un peu différente, donc on est un peu dans le cas des papillons, là, cette paire d'ailes qui se trouve en T3. Cette fois, c'est une photo qui m'a été envoyée par Benjamin Prudhomme. Et Benjamin Prudhomme et Nicolas Gompel, à l'époque où ils travaillaient encore ensemble, leur laboratoire à Marseille, ont décidé d'essayer de comprendre si vraiment ce casque était une extrusion du notum, ou bien s'il s'agissait d'un appendice dorsal, d'un vrai appendice dorsal, qui sortirait au niveau du premier segment thoracique. Et ils ont fait une étude extrêmement détaillée et intéressante, qui a donc été publiée dans Nature en 2011, et je ne vais pas rentrer dans les détails anatomiques, ce n'est pas ce que j'aimerais discuter dans ce contexte, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'analyse précise de l'origine de cette structure, vous voyez ici T1, T2, donc ils ont regardé comment ce casque sortait, comment il s'articulait avec le reste du corps, etc., leur ont permis de conclure d'une façon relativement robuste que ce casque sur T1 se développe vraiment comme une aile. Donc avec cette étude, ils ont pu exclure cette hypothèse que l'on trouvait depuis longtemps dans la littérature et qui disait que ces casques étaient en fait des extrusions du notum. Non, il s'agit vraiment d'appendices comme des ailes, mais qui sortent de T1. Donc chez ces membres acidés, il semble qu'il y a une perte du mécanisme qui réprime normalement les ailes sur T1. Donc, chez tous les insectes, aucun insecte, on trouve une paire d'ailes sur T1, donc il semble qu'il y a un mécanisme sur T1 qui empêche les ailes qui poussent sur T2 ou sur T3 de sortir de T1. Ce mécanisme, il est très similaire au mécanisme que je décrivais précédemment pour les pattes. Souvenez-vous, pour les pattes, je vous disais qu'il y avait un gène extrêmement important, qui était distalless, et que ce gène était réprimé par ultrabithorax, qui est présent dans T3. Dans le cas des ailes, la situation est relativement comparable. Il y a évidemment plusieurs gènes qui sont nécessaires pour fabriquer des ailes, mais un gène extrêmement important, c'est un gène qui s'appelle NOBIN, NOB, et lorsque ce gène est actif, au bon endroit, au bon moment, eh bien ce gène fabrique des ailes. Dans T1, chez tous les insectes, se trouve un autre gène architecte qui n'est pas UBX, puisque je vous disais que UBX s'arrête à la frontière T2-T3. Dans T1 se trouve un autre gène architecte qui s'appelle Sexcomb Reduced, SCR. C'est un gène qui, comme UBX, possède cet homéodomaine, comme UBX a cette structure en trois hélices, comme UBX se lie à l'ADN, mais avec une séquence un peu différente, donc va se lier à des endroits un peu différents. C'est un membre de ces gènes, de cette famille de gènes homéotiques. Et comme UBX, SCR a la capacité d'empêcher l'expression de nobine. Donc, dans le cas normal, chez Drosophila, par exemple, dans T1, on trouve SCR, et puisqu'il y a SCR, nobine n'est pas exprimée, et par conséquent, les ailes en T1 ne peuvent pas pousser. C'est encore une fois un petit jeu mathématique relativement simple. Donc, conclusion, hypothèse de ces auteurs, de Nicolas Gompel et de Benjamin Prudhomme, eh bien, soit il n'y a pas de nobine dans le. Il devrait y avoir nobine exprimée dans le segment T1 des membres acidés, puisqu'il y a une structure qui ressemble à une aile, donc on doit trouver nobine. Mais par contre, on ne devrait pas trouver SCR, puisque s'il y a SCR, nobine ne fonctionne pas. Donc l'hypothèse, eh bien voilà, on a pratiquement résolu la question. La répression de nobine par SCR n'est pas faite correctement dans le segment T1 chez les membres acidés. Par conséquent, on pousse une structure. Alors, évidemment, ils ont regardé ça en détail. Et effectivement, premièrement, ils trouvent que nobine est effectivement exprimée dans T1, au bon endroit, au bon moment. Donc, il semble clair que nobine est capable de produire cette structure qui ressemble à une aile. Okay. Donc ils se disent, maintenant, évidemment, on ne doit pas voir SCR, mais malheureusement, ils remarquent que SCR est également exprimé dans ce même domaine. Donc on a à la fois la protéine effectrice, celle qui fait une aile, et la protéine qui devrait empêcher de faire l'aile. Et pourtant, on a une structure. Alors, à ce moment-là, on s'est dit, la conclusion est simple. Comme pour le cas du BX, on a peut-être une mutation dans le gène SCR qui empêche ce gène de réprimer nobine. Souvenez-vous, dans l'abdomen des arthropodes, des crevettes, dans l'abdomen des crevettes, nous sommes arrivés à la conclusion que c'était une mutation dans la protéine, dans le gène UBX, qui faisait que Distalles pouvait fonctionner. UBX est là, mais simplement il ne peut plus empêcher Distalles de fonctionner. De façon similaire, ces auteurs disent, on a nobine, on a SCR, mais SCR ne peut pas réprimer nobine parce qu'il a changé. Il y a une modification dans la structure qui fait qu'il ne peut plus empêcher nobine de faire une aile. Et là, pour vérifier cette hypothèse, ils font quelque chose qui est, à mon avis, beaucoup plus efficace, beaucoup mieux approprié que de regarder simplement la séquence. Ils se disent, on va essayer de mesurer la capacité répressive de SCR des membres acidés chez la mouche. Donc, ce qu'on va faire, si effectivement il y a une mutation dans SCR qui l'empêche de réprimer nobine, on va isoler le gène SCR des membres acidés, pas de la mouche, des membres acidés, et puis on va aller transplanter ce gène dans T2 et T3 de la mouche. Si la mouche n'a plus d'aile, c'est que ce gène a conservé sa capacité à réprimer. Si la mouche garde ses ailes, ça veut dire que ce gène SCR des membracidés a perdu sa capacité à réprimer. Est-ce que vous me suivez ? Bon. Le contrôle de cette expérience, parce qu'il faut évidemment un contrôle, bien sûr, c'est de faire pareil avec le gène SCR de la mouche. Donc, la première chose à faire, c'est que SCR dans la mouche n'est exprimé que dans T1, puisque T2 et T3 ont des ailes. Donc SCR, je vous le disais, n'est présent que dans T1. Donc vous prenez SCR de la mouche et vous l'exprimez dans T2 et T3. Alors je vous passe les détails de cuisine, c'est assez compliqué, mais c'est quelque chose qui se fait facilement aujourd'hui. Donc vous exprimez SCR de la mouche dans T2 et T3 de la mouche. Et qu'est-ce que vous voyez ? Immédiatement, la mouche perd ses ailes. Elle perd ses balanciers. Ce n'est pas étonnant. Le travail que fait SCR normalement dans T1, il va le faire dans T2 et T3 si vous le mettez dans T2 et T3. Donc, suppression des ailes. Donc, ces auteurs se disent, ben voilà, on va maintenant refaire pareil avec le SCR des membracidés. Et cette fois, la mouche va garder ses ailes. Puisque chez les membracidés, SCR dans T1 n'est pas capable de supprimer les ailes. Donc il y a une modification de cette protéine. D'accord ? Et ils font l'expérience donc, d'introduire SCR des membracidés dans T2 et T3. Et évidemment, les mouches transgéniques perdent leurs ailes et leurs balanciers. Ce qui veut dire que SCR chez les membracidés est parfaitement capable d'empêcher l'expression de nobine. Et donc, c'est là où se trouvent actuellement les travaux, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas exactement comment nobine est empêchée de fonctionner dans le segment T1 des membracidés. D'accord ? Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le gène SCR des membracidés est toujours capable de réprimer les ailes. D'accord ? Simplement, il ne le fait pas chez les membracidés. Donc l'idée, l'hypothèse qui est proposée et qui fait du sens, en fait, par ces auteurs à l'époque, c'est que quelque chose doit se passer en aval. On a une chaîne d'épistasie, on dit en génétique, donc une chaîne de relations avec des causalités. On a SCR qui empêche nobine de travailler. Là, on voit que SCR est là, nobine est là, donc il doit y avoir quelque chose en dessous, quelque part, qui empêche la structure de se former. Et une possibilité, par exemple, c'est un cofacteur. On pourrait imaginer que nobine, par exemple, travaille de concert avec une autre protéine, une sorte de binôme, que cette autre protéine serait chez la mouche dans T1, dans T2, dans T3, ne serait pas chez les membracidés, par exemple. D'accord ? Ce très bel exemple, en fait, nous ramène à la double question, enfin, je devrais dire aux questions antagonistes, finalement, que pose cette discipline de Levo-Devo. Parce que lorsque l'on regarde cet animal maintenant, avec ce casque magnifique, la question qui vient à l'esprit des gens dévots, donc de la frange biologiste du développement, c'est comment le casque est-il produit ? C'est les travaux que je vous ai montrés. D'où vient-il ? Quelles sont les différences avec les ailes ? Mais la question des gens qui viennent de la frange évo, qui sont plus intéressés dans le côté évolutif, ne vont pas s'intéresser à cette question. Ces gens-là vont se dire, quel est l'avantage adaptatif de ce casque ? Et c'est là qu'on voit, en fait, l'antagonisme entre ces deux aspects de cette discipline qui fait que c'est, d'une façon épistémologique, c'est une discipline qui est relativement instable. Parce qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur les questions fondamentales. On passe systématiquement de l'une à l'autre. Du comment, comment on fabrique ce casque, comment c'est possible, au pourquoi. Pourquoi ce casque est-il sélectionné? Quel est l'avantage qu'il donne à l'animal? Alors, cette question de l'avantage des casques, là, évidemment, ça devient sauvage. Chacun peut avoir son avis. Les évolutionnistes des populations auront tendance à dire, peut-être avec raison d'ailleurs, qu'une femelle de ce type sera très attirée par un mâle comme ça et pas du tout par un mâle avec cette grande blanche de panda là. Et peut-être qu'un mâle de ce type sera très attiré par une femelle avec ses deux cornes. Bon, donc un avantage reproductif, une reconnaissance comme la couleur chez les poissons, etc. Mais dans le fond, on n'en sait rien. Donc on en revient à ce que je disais la semaine passée sur Pangloss. C'est plus une interprétation de nous-mêmes que des faits scientifiques que l'on peut considérer comme acquis. On pourrait dire aussi que parce que cet appendice dorsal sur T1 ne sert pas à grand-chose, finalement, c'est pour cette raison que ce morphospace est tellement grand que ce nombre de formes invraisemblables a pu être produit. On pourrait renverser l'argument et dire, finalement, il ne sert à rien. Alors, ici, peut-être, il va décourager des prédateurs. Ici, peut-être, il va mieux se camoufler dans un biotope particulier. Ici, il va ressembler à une feuille de chêne. Peu importe, mais ça voudrait dire que chacun de ces membracidés a évolué un casque en fonction des caractéristiques de son habitat, ce qui est fort possible également. Mais à cette question, on ne peut pas donner une réponse qui est une réponse formelle. Donc j'en arrive maintenant à cette conclusion générale, en fait, qui nous fait basculer dans ces gènes Hox, ces gènes architectes, et qui a à voir avec ce principe très général de l'identification des segments par ces gènes architectes. Et c'est un principe que l'on retrouve donc dans tous les animaux qui ont une symétrie bilatérale, en tout cas, et donc la modification de ces domaines d'expression conduit à des phénomènes que j'ai déjà décrits comme étant des phénomènes de tagmose, et ces phénomènes de tagmose qui ont pu jouer un rôle évidemment extrêmement important dans l'évolution des plans corporels. Donc, ce que l'on peut voir ici, en fait, c'est qu'il y a deux étapes relativement distinctes dans la construction d'une métamérie, donc dans l'itération des segments, dans le fait que nous sommes des animaux avec des étages, avec des segments. Il y a d'une part la construction des segments, la production d'une forme itérée, et d'autre part, l'identification de ces segments. Et ce sont des mécanismes qui sont relativement différents les uns des autres. Et parce que ces mécanismes sont différents les uns des autres, on peut introduire des offsets. Si c'était le même mécanisme qui faisait les deux, on ne pourrait pas varier l'un par rapport à l'autre. Comme ce sont des mécanismes relativement différents, on peut continuer à fabriquer des segments en arrêtant leur identification, ou continuer à identifier des segments en arrêtant leur production, etc., etc. D'où la photo du petit serpent que je vous montrais, l'embryon de serpent que je montre sur ma première diapositive, où on voit ces 350 vertèbres, donc ces segments qui n'arrêtent pas d'être produits sans avoir vraiment de transition morphologique très claire. Donc là, on voit vraiment un décalage complet entre ces deux systèmes, le système de production de ces étages et le système d'identification de ces étages. Alors, ces gènes homéotiques, ces gènes Hox, sont essentiellement impliqués dans l'identification de ces étages. Mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ne sont pas impliqués, en tout cas dans certains types d'animaux, dans la production de ces segments, parce que si ces deux mécanismes doivent être différents l'un de l'autre, il faut tout de même qu'ils se parlent. Parce qu'alors, si ces deux mécanismes ne se parlent pas, on aurait dans la population une distribution des tagmas qui serait relativement aléatoire. On aurait beaucoup de gens qui auraient 15 vertèbres thoraciques, 13 ou 12, parce qu'il y aurait constamment des décalages. Donc il y a des mécanismes qui font que la production des segments est intimement liée à leur identification. Mais ces mécanismes sont différents. Cette idée de tagma, je vous le rappelle, c'est une idée qui qualifie en fait un groupe de segments, un groupe d'étages, qui collectivement ont une fonction, je dirais, globale. Donc on pourrait considérer par exemple que toutes nos vertèbres thoraciques, puisqu'elles portent des paires de côtes, sont un tagma. Inversement, toutes nos vertèbres lombaires, qui ont plutôt une fonction d'articulation, etc., seraient un tagma. Alors, chez les insectes, vous pouvez voir ici, l'abdomen peut être considéré comme un tagma. Vous voyez ici que ce gène particulier homéotique est exprimé au niveau de T3. C'est pour ça que cette patte de la sauterelle est différente des pattes qu'il y a en T1 et en T2. Parce que la sauterelle a utilisé cette information différente dans ce segment pour pouvoir évoluer une patte qui lui permet d'être adaptée à son habitat, c'est-à-dire de sauter, d'échapper aux prédateurs, etc. Alors, si l'on regarde maintenant, avec cette idée de gène homéotique et de tagma en tête, si l'on regarde les structures des arthropodes, on s'aperçoit qu'en fait, on peut jouer à une sorte de jeu de reconstruction de tagma. On pourrait même demander à des enfants de le faire, finalement, de regarder différents animaux et de remettre en place des différents tagmas. Et je vous montre ici une image qui a été modifié par Michael Akam, qui travaille à Cambridge depuis de très nombreuses années, qui a été impliqué dans ces travaux. On voit que si vous comparez un mille-pattes avec un crustacé, avec un écrevisse, alors, vous allez me dire, un écrevisse ne ressemble pas à ça, mais on parle toujours d'animaux qui se développent, hein, des formes larvaires, des formes en développement. Et puis en bas, vous voyez ce poisson d'argent, donc c'est un insecte qui par terre, vous en avez sûrement déjà vu dans votre cuisine, etc. Bien, vous voyez que c'est simplement des variations sur un thème de tagma différent. Il y a un peu plus de ça, un peu moins de ça. C'est des combinaisons différentes de tagma. Et il semble acquis que ces combinaisons de tagma sont en fait dues à des différences dans l'expression de ces gènes homéotiques. Alors, cela peut être dû à des différences hétérométriques, hétérotopiques, hétérotypique ou hétérochronique. Les quatre systèmes de variation, vous pouvez les imaginer, les retrouver là-dedans. Alors, faites attention, il ne s'agit pas que de frontières d'expression. On peut, par exemple, entre ces deux tagmas, avoir les mêmes gènes homéotiques exprimés, mais simplement, dans ce tagma-là, il serait exprimé dans 30% des cellules, alors que dans ce tagma-là, il serait exprimé dans 70% des cellules. Donc il y a à la fois une combinaison de régulation génétique, mais aussi une combinaison de différentes cellules qui soit expriment, soit n'expriment pas, parce qu'il faut bien réaliser qu'en fait, ce segment-là, ce n'est pas un morceau qui répond à une information génétique, c'est évidemment des millions de cellules qui chacune a son système de régulation de son génome. Donc la modification, peut-être des déplacements, des tailles relatives, de ces tagmas par des changements de domaine d'expression ou de structure. Hein, donc l'action de ces gènes homéotiques sur le plan global que vous pouvez déduire de ça, hein, c'est-à-dire un certain nombre de segments gnathos, un certain nombre de segments thoraciques, un certain nombre de segments intermédiaires, un certain nombre de segments abdominaux. Ça, c'est le point de départ, c'est le plan de base. Là-dessus vont venir ces deux mécanismes de fabrication des segments et de leur identification qui vont faire un peu plus de ça, un peu moins de ça, peut-être une combinaison de ces deux-là, etc. Et on arrive à la genèse de toutes ces formes différentes des arthropodes. Alors, comme on l'a déjà vu la semaine passée, ce système, et ça dérive de cette révolution de la génétique du développement du milieu des années 80, donc 1980, ce système existe également chez les vertébrés. Et je vous montre ici une figure que j'ai extraite d'une publication de Anne Burke, qui a beaucoup travaillé sur ce domaine, qui est le laboratoire de Cliff Tabin à Harvard. Et ce que vous voyez encore une fois, c'est en haut le poulet, en bas la souris. Ces représentations graphiques illustrent au centre ces ronds, vous donnent les segments du système nerveux central. Parce que votre système nerveux central, bien entendu, est segmenté au départ au même titre que le reste de votre corps. En médecine, lorsqu'on parle de métamère, on parle d'étages complets, inclus les nerfs, bien entendu. Comme vous le savez, les nerfs ont des racines qui partent de façon orthogonale. Si vous avez un zona, par exemple, vous allez avoir une bande de problèmes qui illustre en fait cette stratégie segmentée, finalement. Donc là, au centre, vous avez les transitions dans le système nerveux, et puis à la périphérie ici, dans ces petits carrés, vous avez les transitions dans le système mésodermique, donc dans ce qui va donner les vertèbres, les muscles, etc. Peu importe, finalement. Ce que je vais vous dire ici, c'est que je vous montrais tout à l'heure cette différence qui existe entre les oiseaux et les mammifères. Vous voyez qu'il y a des décalages. On a ici des tagmas. On a là, alors, ce sont des segments, encore une fois, des segments qui sont dans la partie la plus rostrale. Mais ici, vous avez les segments cervicaux. Là, vous rentrez dans la partie thoracique. Là, vous rentrez dans la partie lombaire. Et là, vous êtes dans la partie sacrée, etc. C'est en fait un système qui est extrêmement similaire de ce que vous voyez là. C'est simplement des déplacements de tagma. Alors, chez les oiseaux, vous voyez, encore une fois, chez les oiseaux, vous voyez que cette région est rallongée. Cette région est raccourcie, par contre. Vous voyez, celle-là est plus grande. Donc, comme je vous le disais la semaine passée, on rattrape l'allongement du tagma cervical des oiseaux est rattrapé par le raccourcissement de son tagma thoracique. C'est des jeux de contraintes qui font qu'on modifie les emplacements. Là, j'ai mis des flèches pour indiquer cette transition cervico-thoracique que je vous montrais tout à l'heure, que l'on retrouve ici. Alors, Annie Burke, dans le laboratoire de Cliff Tabin, a fait une analyse très fine pour essayer d'associer les combinaisons de gènes architectes qui correspondent à chacune des transitions majeures dans nos morphologies. Donc la transition, par exemple, cervico-thoracique, ou la transition thoraco-lombaire, la transition lombo-sacrale. Les transitions, ça fait mal, généralement. C'est les points d'articulation entre les types vertébraux fondamentaux. Et le résultat était le suivant, qui a été publié en 1995, où elle s'est aperçue, en fait, que ces transitions qui sont à des positions différentes dues à l'extension de ces tagmas ou leur réduction, correspondent systématiquement aux mêmes gènes architectes. Donc effectivement, il semble que ce soit les mêmes gènes qui fixent ces transitions, c'est simplement l'endroit, le temps, le moment où ils sont exprimés qui impose ces transitions. Donc là, vous avez le gène numéro 6, et en fait, chez la souris, chez le poulet, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit au même niveau, mais non. Le gène numéro 6 est là, il correspond en fait avec la même transition, donc on a vraiment une correspondance entre la génétique, entre la présence d'une protéine particulière et une transition morphologique. Donc à cet égard, on peut dire qu'une des fonctions de ce gène numéro 6, alors il y a plusieurs gènes 6, mais pour faire simple, une des fonctions de ce gène, de cette protéine numéro 6, c'est de dire, là, on passe à autre chose, on sort de la région cervicale, s'il vous plaît, il faut faire une paire de côtes maintenant. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça signifie, d'un point de vue morphogénétique, bien, ça signifie que sur une structure vertébrale embryonnaire, il va falloir activer la croissance cellulaire sur deux petits endroits latéraux de façon à ce que cette structure osseuse qui normalement reste compacte va pousser pour faire une paire de côtes. Donc en fait, ce n'est pas mystérieux, si vous voulez. On peut très bien imaginer que ce gène numéro 6 ne fait que donner une information de croissance. De dire à cette vertèbre qui se développe, maintenant, il faut y aller, il faut pousser de deux côtés latéraux. Okay ? En absence de ce gène ici, on n'a pas de paire de côtes qui pousse. Vous déclenchez ce gène, vous allez avoir des paires de côtes qui poussent. Alors évidemment, ça reste du niveau de l'observation. Et l'idée, c'est vraiment de se dire comment peut-on démontrer cela. Quelle intervention peut-on faire chez l'animal pour essayer de démontrer qu'effectivement, il y a une relation de causalité dans ce cas-là qui va du gène à la structure, et non pas l'inverse. Non pas de dire « non, c'est parce qu'à cet endroit-là, on fait une paire de côtes que ce gène 6 est activé. » D'accord ? Donc il faut avoir une approche fonctionnelle. Et évidemment, cette approche fonctionnelle, on peut s'en douter, consiste à modifier l'expression de ce gène et de voir ce qu'il donne. Et j'aimerais maintenant vous montrer deux expériences à cet égard. J'arrête. La première concerne la charnière lombosacrée, ce qu'on appelle la charnière lombosacrée en médecine, c'est-à-dire la transition entre la région lombaire et la région sacrale. C'est la transition qui fait mal parce que chez nous, c'est L5, donc L5-S1. Chez la souris, généralement S6. Je vous mentionnais la semaine passée, il y a probablement un certain nombre d'entre vous qui peut-être ont une sixième vertèbre lombaire. C'est des vertèbres délicates puisque L3, L4, L5 sont celles où viennent se brancher le nerf sciatique, donc c'est un endroit assez délicat qu'il s'agit de bien construire. Et il semble que cette construction dépende de ce gène numéro 11. Donc lorsque l'on allume ce gène numéro 11, on passe d'une structure lombaire à une structure sacrée, qui sont des vertèbres très différentes, avec des appendices latéraux plus grands qui vont fusionner pour faire le sacrum. Donc ce que vous voyez là, c'est en fait l'expression du gène 11 qui, comme UBX tout à l'heure, démarre à cette frontière et s'étend jusqu'au bout de l'animal. D'accord ? Donc vous imaginez cette colonne qui se développe en produisant des segments l'un après l'autre. Et lorsqu'on arrive au niveau L5, au futur niveau L5, paf, le gène numéro 11 s'allume et va rester allumé jusqu'au bout. D'accord ? Donc ce que l'on peut faire dans ce cas-là, c'est deux choses. La première, c'est de produire une souris modifiée, et là encore, je ne rentre pas dans les détails, qui va exprimer le gène 11 un peu plus bas. Alors ça peut être, souvenez-vous, une transformation hétérochronique, on allume le gène un peu plus tard, on peut aussi décider de le mettre ici, avec quelques trucs génétiques. Donc maintenant, on va voir ce gène 11, plutôt qu'il soit exprimé à partir de cette transition, il va être exprimé à partir d'ici, plus bas. Donc ce morceau-là, va manquer, va se développer en absence de ce gène 11. Et c'est ce qu'on appelle donc une perte de fonction. C'est-à-dire, on va avoir quelques segments dans lesquels 11 devrait être là, mais il n'est pas là. C'est une perte de fonction. Inversement, on peut faire l'expérience inverse. On peut dire, je vais me débrouiller pour faire démarrer 11 plus haut. Donc, dans cette région-là, maintenant, qui correspond à ce différentiel, on ne devrait pas avoir 11, mais on va l'avoir. C'est ce qu'on appelle un gain de fonction. Donc, on a une perte de fonction, on enlève 11, on a un gain de fonction, on gagne 11. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est produire une souris de ce type-là, produire une autre souris de ce type-là, et puis, pour varier les plaisirs, vous croisez ces souris. Donc, vous avez maintenant des portées qui mélangent tous ces allèles. Il y en a qui sont avec du 11 trop haut, d'autres avec du 11 trop bas. Et puis, vous regardez ces portées, et voilà ce que vous voyez. Ce sont des frères et sœurs. Vous voyez que vous pouvez avoir des animaux qui ont 8 vertèbres lombaires. Donc, ça, c'est la formule sauvage, 6 vertèbres lombaires. Vous pouvez avoir des animaux qui en ont autant que 8, des animaux qui ont 7, puis des animaux qui ont 5, puis des animaux qui ont 4. Ce sont les frères et sœurs. D'accord. Donc, dans ces animaux-là, vous avez un gain de fonction, c'est-à-dire que 11 est remonté. Évidemment, ça correspond à la formule gain de fonction. Donc, vous montez 11, le sacrum monte. Vous descendez 11, le sacrum descend. Donc, il est extrêmement probable que chez Homo sapiens, les gens qui, parmi vous, dans la population, ont une sixième vertèbre lombaire, c'est simplement une petite différence dans le positionnement ou dans l'activation de ces gènes 11 qui sont arrivés un tout petit peu trop tard, ou peut-être avec un tout petit décalage, juste suffisant pour faire une vertèbre supplémentaire sans qu'elle soit déterminée à faire une vertèbre sacrée. Ce qui n'a strictement aucune importance, puisque les racines du nerf sciatique, si elles ont 3, 4, 5, c'est parfait. Si elles ont 4, 5, 6, c'est parfait aussi. Elles vont où la place se trouve. Donc, ça n'a strictement aucune importance médicale. Je vais terminer en vous disant que, dans ce cas-là, on assiste à une antériorisation, c'est-à-dire ces vertèbres-là, qui devraient être des vertèbres sacrées, sont maintenant des vertèbres lombaires. Donc, on antériorise les vertèbres. Dans ce cas-là, on les postériorise, c'est-à-dire ces vertèbres-là, qui normalement devraient être des vertèbres lombaires, sont maintenant des vertèbres sacrées. Donc, on a affaire à une postériorisation. Et en fait, dans le système homéotique, et cela avait été anticipé par Ed Lewis en travaillant sur la mouche, c'est une caractéristique très générale. Dans les pertes de fonction, on obtient des antériorisations, et dans les gains de fonction, on obtient des postériorisations. C'est évident, dans le fond, puisque nous nous développons en partant de l'antérieur pour aller vers le postérieur, tout ce que l'on gagne, tout ce qui va arriver trop tôt, trop haut, va postérioriser. Tout ce que l'on perd, qui va arriver trop tard, trop bas, va nous antérioriser. Donc c'est un principe fondamental, en fait, de cette question de l'homéose, qui fait que chaque fois que l'on perd un gène architecte, on antériorise les structures, et chaque fois que l'on gagne un gène architecte, on postériorise les structures. Voilà, je rediscuterai de ça en début du cours prochain avec mon deuxième exemple. Je vous remercie.